Congolais avec Alain Hiron.
Bonsoir. Situation sécuritaire au Nord Kivu. Le secrétaire général adjoint des Nations Unies chargé des opérations de maintien de la paix dénonce l'installation d'une administration parallèle par le M23 dans la partie du Nord Kivu sous leur contrôle. S'exprimant mardi devant la presse à New York, Hervé Latsous a qualifié d'inacceptable cet acte. Comment analyser cette déclaration? Pour en parler, nous recevons Maître Feller Loutei Chirois, vice-gouverneur de la province du Nord Kivu. Monsieur le vice-gouverneur, bonsoir.
Oui, bonsoir.
Maître Omar Kavota, vice-président et porte-parole de la société civile du Nord Kivu. Maître Kavota, bonsoir.
Bonsoir, monsieur Alain. Bonsoir à tous les auditeurs de Radio Kapi.
Professeur Bouendoua Elouga Essi, politologue et professeur à l'ISE Uvira au Sud Kivu. Vous êtes directeur du Centre de recherche et d'études sur l'Afrique orientale et l'Afrique des Grands Lacs. Professeur Bouendoua, bonsoir.
Bonsoir, chers amis, bonsoir.
Merci, chers auditeurs et internautes, pour vos réactions. John Badjoko Daru, en province orientale. Pour moi, c'est simplement le début de la balkanisation. Le M23 a déjà goûté au miel de la RDC. Robert Baomé de Bukavu Sud Kivu dénonçait l'implantation de l'administration parallèle par le M23 au Nord Kivu, c'est bien. Mais aider la RDC par des actions concrètes, efficaces et urgentes à sortir de la situation critique qu'elle traverse actuellement au Nord Kivu, c'est mieux. Une déclaration ne reste qu'une déclaration. Merci de nous recevoir chez vous. Bienvenue à tous dans votre émission.
Pour participer à l'émission, appelez le 081 051 66 78 ou contactez-nous par SMS 081 051 57 78 ou par mail dec@radiocapi.net.
Le M23 a installé une administration parallèle dans la partie du Nord Kivu sous leur contrôle, ce qui permet aux mouvements rebelles de prélever des taxes et contrôler la population. Un acte que le secrétaire général adjoint aux opérations de maintien de la paix des Nations Unies qualifie d'inacceptable. Hervé Latsous pense qu'il faut multiplier des efforts pour consolider le cessez-le-feu observé jusqu'ici sur le terrain des opérations. Il s'exprimait mardi 18 septembre devant la presse à New York au sortir de la réunion avec le Conseil de sécurité, réunion au cours de laquelle Hervé Latsous a fait le compte-rendu de sa mission effectuée du 9 au 15 septembre dernier en RDC, au Rwanda et en Ouganda. Ses propos ont été recueillis par Jean-Pierre Ramazani de la Radio des Nations Unies à New York.
Les éléments du M23 sont concentrés dans un coin à l'est du Kivu, près des frontières du Rwanda et de l'Ouganda. C'est à Rutshuru. Et à partir de cette position, ils ont entre-temps mis en place une administration de facto qui contrôle la population, prélève des taxes sous la circulation, ce qui est inacceptable. Mais il n'y a pas eu d'offensive militaire majeure au cours des 5 ou 6 dernières semaines. Mais clairement, ceci peut changer très rapidement, et cela dans plusieurs directions. Ils peuvent décider de rentrer dans leurs anciennes positions au Masisi, ou ils peuvent décider de bouger vers Goma au sud. C'est pourquoi nous devons travailler pour consolider la situation et faire beaucoup de progrès dans le sens du cessez-le-feu. C'est la priorité.
Some sort of ceasefire. That is the priority.
Contacté par notre consoeur BBC, le porte-parole du gouvernement congolais Lambert Mende estime que l'analyse d'Hervé Latsous confirme que le Rwanda tente de balkaniser la RDC. Par ailleurs, on apprend de la même source que le ministre congolais des Mines a écrit aux États-Unis et au Royaume-Uni pour demander à leur société d'arrêter d'acheter des minerais rwandais qui sont le plus souvent extraits en territoire congolais. Pour sa part, l'ambassadeur allemand à l'ONU, Peter Wittig, a affirmé que les membres du Conseil de sécurité sont d'accord pour considérer qu'une solution politique à la crise est une priorité absolue. Je détecte une volonté de renforcer le dialogue politique et de ne pas se focaliser sur des sanctions à l'heure actuelle, a-t-il ajouté. Et de conclure, je cite, « Le dialogue, le renforcement de la confiance et de la coopération entre Kigali et Kinshasa sont nécessaires d'urgence pour traiter des racines du conflit ». Fin de citation. Monsieur le gouverneur, Feller Lutay-Chirois, vous êtes vice-gouverneur de la province du Nord Kivu. Est-ce que vous confirmez l'assertion selon laquelle le M23 a installé une administration parallèle au Nord Kivu?
Oui, monsieur Guy, il se fait que le M23, quand il a commencé, avant de prendre forme, a changé de forme. Au début, c'était qualifié par le gouvernement congolais, d'abord comme une question d'indiscipline au sein des rangs des FARDC, quand le général Bosco s'était retiré au niveau de Massissi. Après, cette indiscipline s'est transformée en mutinerie, en attaquant les FARDC. Une mutinerie, heureusement, qui avait été maîtrisée au niveau de Massissi assez rapidement, jusqu'à ce que le général Bosco, fuyant avec tous ses acolytes vers l'Est, au niveau de Rutshuru, et pendant ce temps, le gouvernement avait décrété une trêve de 5 jours pour permettre à ce que, parmi les fuyards, il y ait des éléments qui puissent se rendre. Et c'est pendant cette période-là que ils ont créé ce qu'on a appelé le M23 à Runyoni, pratiquement dans un triangle très très proche du Rwanda. Et depuis lors, c'est devenu un phénomène. Et malgré les appels et du gouvernement et de la sous-région à travers la conférence internationale sur la paix et la sécurité des pays des Grands Lacs, la CIRGEL, et de l'Union africaine et des Nations unies, hélas, nous constatons que ce mouvement continue à poser des actes évolutivement, des actes qui narguent toutes les instances, qu'elles soient sous-régionales, qu'elles soient régionales, qu'elles soient des Nations Unies. Et donc, nous confirmons ce que le secrétaire général adjoint est venu constater lui-même sur terrain.
Alors, monsieur le vice-gouverneur, pour les auditeurs qui nous suivent et qui ne connaissent pas la cartographie de la province du Nord Kivu, quelles sont les zones qui sont concernées par cette administration parallèle du M23?
En fait, il se fait que, d'après des communiqués qui sont lancés et qui sont récupérés au niveau de l'Internet, parce qu'ils utilisent l'Internet pour lancer des communiqués, et ils disent avoir mis en place des départements avec un secrétaire qu'ils appellent un secrétaire exécutif comme coordonnateur de tous les départements, justice, relations publiques et consorts. Et à partir de ce moment-là, nous constatons qu'ils ont érigé des barrières, et des barrières qui consacrent un territoire qu'ils appellent un territoire qui est sous leur contrôle. Et ils font des contrôles systématiques. Pas seulement ça, mais ils ont instauré des taxes et des impôts exorbitants. Et ceux qui font la flambée des prix au niveau de Goma et au niveau de toutes les agglomérations qui entourent ce qu'eux appellent comme appellent les territoires sous leur contrôle. Il se fait que la CIRGEL les avait invités à reculer sur les positions qu'ils occupaient le 30 juin, mais ils font sourde oreille. Et il se fait que nous constatons, hélas, qu'ils continuent à narguer toutes les instances qui appellent à ce qu'ils puissent cesser.
Mais monsieur le vice-gouverneur, plusieurs analystes ont protesté ou ont fait observer que le gouvernement, ce soit le gouvernement central à Kinshasa, le gouvernement provincial du Nord Kivu, n'a pas réagi face à cet état des choses, à part la société civile que nous avons entendu dénoncer cet acte.
Non. Au niveau du gouvernement central, vous avez suivi Son Excellence le ministre de la communication, Son Excellence Lambert Mende, qui intervient très très souvent au niveau de la province du Nord Kivu. Il faut retenir que le Rwanda voulait nous faire tomber dans un piège de xénophobie, la population ayant le ras-le-bol, voulant manifester en faisant une lecture trop limitée de la chose, presque une lecture ethnique. Sur ce plan-là, le gouvernement provincial a travaillé. Et non seulement cela, mais le gouvernement provincial a initié beaucoup de dialogues sociaux. Mais il s'est fait aussi que même maintenant, le chef de l'exécutif provincial est associé comme expert dans tous les efforts diplomatiques qui sont déployés par le gouvernement central.
Maître Omar Kavota, vous êtes vice-président et porte-parole de la société civile du Nord Kivu. Quelle est votre analyse, vous également qui êtes sur terrain?
Merci, monsieur Alain. Permettez que je puisse commencer par saluer Son Excellence, monsieur le vice-gouverneur, avec notre analyste politique et les auditeurs. Et s'il faut revenir à votre question, monsieur Alain, je pense que nous devons d'abord saluer, à sa juste valeur, cette action des lobbies et des plaidoyers de grande envergure menée par monsieur Hervé Lassousse. Et lorsqu'on parle de cette administration parallèle instituée par le M23, donc sont tentés de croire que cette administration a été faite ce matin ou alors ce soir, alors que la population vient d'en souffrir depuis plus de 2 mois. S'il faut se rappeler, lorsque le M23 a pris le contrôle de Bunagana, il s'est précipité à prendre le contrôle de la douane. Et ses griffes se sont encore rendues visibles lorsqu'il a réussi à étendre son contrôle sur les cités comme Kiwanja, Rutshuru Centre, Lumangabu et les environs, donc la quasi-totalité du territoire de Rutshuru. Et il y a un mois, comme venait de le dire Son Excellence Monsieur le Vice-Gouverneur, cette rébellion, ou mieux, cette étiquette d'agression a publié un gouvernement de soi-disant ministres qui sont appelés ici des chefs de département. Et au lendemain de cette publication, il faut dire que le M23 s'est donné même le courage de nommer des chefs de cité à Kiwanja, à Rubarekako et à Bunagana. Et je dois rappeler que Rubarekako et Bunagana, ce sont des cités que le M23 a créées. Donc ce sont des cités qui n'ont jamais existé. Et peu avant cette nomination des chefs de cité, il faut dire aussi que ils ont également nommé un administrateur de territoire. Et pour le moment, il y a quelques semaines, il y a un mois aussi, ils ont supprimer la DGRAD, c'est-à-dire la Direction Générale des Recettes Administratives et Domaniales. Ils ont supprimé la DGNRK, la Direction Générale des Recettes du Nord Kivu, pour instituer leur propre Direction Générale des Impôts, DGI, qui centralise en réalité les recettes. Et ces rebelles ont nommé leur propre chef des services techniques d'administration, des taxateurs, des connecteurs d'impôts, et ces livres accordent à des perceptions de diverses taxes auprès des opérateurs économiques résidents ou à transit dans les zones. Et pour ne citer que certaines petites illustrations, c'est que les gros véhicules qui passent par Rutshuru, qui transitent sur cette zone sous contrôle du M23, sont taxés $500 par remorque. Et les véhicules moyens des divers fonctions sont taxés $300 par passage. Les camionnettes et les petits bus de transport en commun sont taxés entre $50 et $100, et les motos, les vélos entre $2 et $5. Bref, ils subservent en réalité une administration qui a été volontairement instituée par le M23 et qui n'est pas encore du tout satisfait, parce qu'en entrant tout de suite dans cette émission, nous venons encore de l'apprendre qu'ils sont en train d'amasser des troupes sur Rougari, donc ils sont en train d'y amener leurs recrues et leurs militaires pour continuer à étendre leur contrôle, et donc cette administration est observée et ce n'est plus sacré pour personne.
Maître Kavota, il y a John Bajoko Daru en province orientale, c'est l'une des réactions que j'ai lues dans le sommaire tout à l'heure, qui dit « Pour moi, c'est simplement le début de la balkanisation, le M23 a déjà goûté au miel de la RDC. »
Nous pensons que, en tout cas, il a raison, et la question que nous continuons à nous poser, c'est de savoir pourquoi il s'observe un silence des autorités du gouvernement central. Parce qu'il ne fallait qu'attendre que Hervé Lansous soit celui qui puisse alerter le monde, alors que on a un gouvernement qui fait semblant de faire comme si rien n'était face à cette situation. Nous pensons que réellement, les plans de balkanisation est mis en œuvre, comme le dit notre auditeur, et nous pensons que c'est très dangereux. Et donc, nous avons intérêt aujourd'hui à ce que la population se mobilise pour barrer la route à cette agression, à ce plan de balkanisation qui se consolide de plus en plus.
Merci. Professeur Bouyendoua Elougaïssi, vous êtes politologue et professeur à l'ISC Uvira au Sud Kivu. Vous êtes également directeur du Centre de recherche et d'études sur l'Afrique orientale et l'Afrique des Grands Lacs. Professeur, comment vous analysez cette situation?
J'analyse cette situation en répétant un tout petit peu un certain nombre de concepts qu'on utilise assez rapidement. Quand on parle de balkanisation au Congo, je me souviens que le président Mobutu nous raillait un peu en parlant de congolisation. Nous nous retrouvons avec des concepts qui sont surannés, avec des réalités qui sont elles aussi surannées, mais parce que maîtrisons mal les forces centrifuges, nous ne pouvons pas contenir les forces centripètes et nous nous retrouvons dans une situation où, dès la CAE à ce M23, nous sommes en train de répéter des histoires qui sont vues, revues, et parce qu'on négocie mal, parce qu'on conduit mal, on conclut mal des négociations, nous nous retrouvons dans des situations qui sont à tout le moins abracadabrantes.
Alors, professeur, le M23 qui installe une administration parallèle, vous parlez du manque de maîtrise des forces centripèdes et des forces centrifuges, c'est-à-dire des forces de l'intérieur et de l'extérieur. J'allais dire à qui la faute?
La faute à nous-mêmes, parce qu'en fait, avant de parler d'une administration parallèle, nous constatons, nous savons qu'il existe une économie parallèle, une diplomatie parallèle, des juridictions parallèles, un mode de vie vraiment qui se retrouve, des modes de vie qui ne peuvent pas être analysés d'un seul centre. Et c'est ainsi que, bon, si M23 arrive à faire de telles aberrations, c'est parce que nous avons un État central faible, un État provincial, excusez-moi, je m'excuserai auprès de son excellence, monsieur le gouverneur, le vice-gouverneur du Nord Kivu, que je connais bien. Mais bon, je remarque à la limite que les administrations locales et les administrations centrales ne sont pas en mesure de contenir tout ce qui arrive, tout ce qui leur arrive. Et c'est ainsi que, même quand l'Arbel arrive, même quand en 1994 j'étais professeur à l'ULPG Lagoma, les choses arrivent, on est pris au dépourvu et je pense que cette situation nous met dans une vie politique qui est intolérable, voire un État agressé, incapable de se défendre localement, nationalement, et puis on se retrouve vraiment en train de supporter même l'insupportable.
Professeur, nous allons prendre pour vous cette réaction qui nous vient de Kindu au Maniema.
Assistant Louis Albas ici, depuis Kindu dans la province du Maniema. Je pense que l'installation de l'administration parallèle dont parle M. Hervé là-dessous n'est que la conséquence négative et d'ailleurs prévisible de la présence des M23 dans cette partie du territoire et à laquelle on ne devrait que s'attendre. Il n'y a pas que les M23. Faudra-t-il aussi se poser la question si l'administration fiscale des miliciens de Morgan en province orientale et bien d'autres aussi. Je crois que nous ne devons pas attendre les biens du côté des rebelles. Ce qu'ils font là, c'est parmi leurs objectifs et que le gouvernement ne doit que contrer toutes les tentatives de ces réalités pour asseoir son autorité.
Professeur, vous venez de parler de la faiblesse des administrations et l'auditeur relève qu'il n'y a pas qu'au Nord Kivu, mais c'est dans plusieurs provinces où il y a des milices qui appliquent déjà cette administration parallèle, mais peut-être puisqu'on n'en parle pas souvent.
Vraiment, je n'ai rien à ajouter, je n'ai pas ajouté un iota à ce qu'a dit l'auditeur. Je pense que c'est une analyse, on ne se connaît pas, mais vraiment mon compatriote là, entre en ligne de mire de tout ce qu'on peut penser de nos administrations, de nos pouvoirs, des questions. Le problème du Congo, je pense, de ces administrations, c'est que nous avons un cas et non pas un tout. Nous n'avons jamais été réellement ni un peuple, ni une nation, ni une république. Nous sommes vraiment voguant entre les eaux. Et évidemment que n'importe qui nous attaquant de n'importe où nous atteint très facilement. Et c'est ainsi que moi, sincèrement, sur ce que vient de dire mon compatriote, je n'ai pas beaucoup de choses à ajouter, mais bon, je pense qu'en nous ressaisissant un petit peu, en sachant qu'on attaque l'ennemi. Moi, je fais, excusez-moi, ma tête sur la pensée politique de Julius Nyerere. Je me souviens de la guerre contre l'Ouganda, quand l'Ouganda avait attaqué la Kagera. Nyerere avait dit, un serpent quitte son trou, il vient vous attaquer, il entre chez vous, vous le chassez, et puis vous le laissez rentrer dans son trou. Non, il faut verser de l'eau chaude dans ce trou. Quand il y a une 23 qui nous attaque et du Rwanda et de l'Ouganda, nous les poursuivons là où ils sont, si nous avons un État et non pas nous mettre à négocier et les administrations se mettront là, financières, fiscales, n'importe lesquelles se mettront là parce que nous avons un État faible et des administrations donc par conséquent faibles.
Professeur, il y a Emina Bassembe de Mbandaka à l'Équateur qui dit, en suivant attentivement les déclarations faites par Hervé Ladsous, toutes ces déclarations montrent clairement que la communauté internationale devient incapable pour rétablir la paix dans l'est du Congo.
L'expression communauté internationale est une véritable escroquerie politique, morale et idéologique. La communauté internationale n'existe pas, il n'existe que des rapports de force. Si nous nous soumettons à ce que pense la communauté internationale, il y a longtemps que nous vendrions notre patrie. Et je pense que c'est là qu'on attend depuis la communauté internationale. Je disais tout à l'heure de Julius Nyerere, tous les gars étaient contre de ce qu'il allait faire la guerre contre l'Ouganda. Ils ont fait la guerre, on attaque. Ils disaient, ça va pas compliqué à tout le monde, ni compliqué à tout le monde, ni compliqué à tout le monde. Si nous n'avons pas tout cela, admettons alors qu'on nous colonise, qu'on nous recolonise, parce que si on n'a pas les moyens de défendre la patrie, nos identités, nos cultures, nous nous serons soumis, nous allons être, comment dirais-je, caporalisés, balkanisés, congolisés.
Alors, professeur, vous dites que nous n'avons jamais été ni un peuple, ni une nation. Ce n'est pas dans des circonstances similaires qu'un peuple peut refaire son âme et son unité, sa cohésion.
La nation, comme disait l'autre, est un plébiscite de tous les jours. Si nous décidons aujourd'hui que nous formons une nation parce que nous subissons une agression, cette nation-là qui contraint et qui contre l'occupant verra le jour parce que on a des idéaux qu'on défend ensemble. Mais là, on va dans des directions les plus opposées. Nous savons très bien que nous sommes agressés depuis très longtemps. Moi, je suis un peu originaire de cette contrée parce que je suis à 15 km du Rwanda, à 15 km du Burundi, pas très loin de la Tanzanie, pas très loin de l'Ouganda. Je connais tous ces pays, mais quand je vais dans tous ces autres pays, on me demande, mais vraiment, vous êtes réellement un peuple. Parce que la vraie question, c'est que nous ne savons pas quand est-ce que nous pouvons mourir pour notre patrie. Et mourir pour notre patrie, ça veut dire nous fixer des vrais objectifs, et prendre des vrais moyens et non pas nous limiter à faire le béni, le yes man.
Monsieur le vice-gouverneur Feller Lutaïchiwa, nous allons prendre pour vous cette réaction qui nous vient de Bukavu, Sud Kivu.
Doudou Omari, Bukavu, quelles sont les mesures qu'ont prises les gouvernements congolais et l'ONU face à cette situation en vue d'éradiquer le plus tôt possible cette catastrophe administrative qui confirme déjà la balkanisation de la République?
Réaction, monsieur le vice-gouverneur, vous avez également suivi Maître Omar Kavota fustiger le silence des autorités du gouvernement central également dans ce dossier.
Moi je pense que du point de vue de la nation congolaise se protège bien. Et nous pourrions d'ailleurs affirmé que face à toutes les agressions déjà subies, nous avons des indicateurs que les Congolais constituent bel et bien un peuple et une nation. Le seul problème, c'est que nous devrions être assez regardants au niveau de la gestion des pressions démographiques des voisins. Et sur ce plan-là, nous avons encore des problèmes. Pendant la mandature qui se termine, on s'est concentré sur les rapports internes, sur la démocratisation de la politique, mais au niveau de la gestion des rapports de notre peuple avec d'autres peuples qui nous entourent, nous pensons que là, il y a encore énormément d'efforts à faire. Au niveau de la diplomatie, au niveau des rendez-vous avec d'autres peuples, nous constatons que au niveau central, et actuellement, la voix congolaise est maintenant écoutée parce que en 96, 98, et en tout cas, les Congolais n'avaient pas de voix. Maintenant, nous venons d'assister à une messe d'une importante délégation de la conférence épiscopale nationale du Congo, constituée d'une dizaine d'évêques venant de tous les Congos. Ça aussi fait un indicateur que les Congolais se mobilisent. Les Congolais ne veulent pas de la partition de l'émiettement de leur pays. Et il se fait que nous avons fourni énormément d'efforts quand nous étions sous l'égide des républicains et à travers des différentes rébellions. Donc nous pensons que c'est du déjà connu. Nous avions déjà surmonté une épreuve plus importante que celle-ci dans un contexte que nous n'étions pas suffisamment écoutés à l'extérieur. Nous sommes convaincus qu'avec les efforts diplomatiques, avec la mobilisation sociale et sociologique nationale au niveau de toute la nation, et nous pensons que c'est un phénomène qui a commencé d'abord comme indiscipline, mutinerie et ceci, mais nous considérons que toute la conscientisation qui se fait à l'intérieur, avec tous les appels à cessation et de l'extérieur, et tous les efforts du gouvernement, en un certain moment, on devra endiguer ce mal.
Monsieur le vice-gouverneur, il y a Augustin Mwango qui nous écrit de Kalima au Maniema qui dit « Nous en avons assez de dénonciations au sujet du M23, d'où qu'elles proviennent. Nous savons que partout dans le monde, lorsqu'une contrée tombe aux mains des insurgés, ce sont ces derniers qui font la loi. Ce qui nous intéresse actuellement, c'est voir la communauté internationale aider notre gouvernement à exploiter les vraies pistes de solutions, car qu'on le veuille ou pas, il y a un véritable malaise dans tous les secteurs de la vie nationale congolaise, et c'est ce qui fait naître autant de groupes armés. » Je reviens sur sa phrase. Actuellement, ce qui nous intéresse, c'est voir la communauté internationale aider notre gouvernement à exploiter les vraies pistes de solutions. Est-ce que la RDC ne serait pas en train de se laisser berner à travers certaines solutions qui lui sont proposées par la communauté internationale?
Non, nous nous considérons que de toutes les façons, il se fait qu'avec tout le travail qui a été abattu, on peut observer une cessation des affrontements. D'abord, ça, c'est vraiment important, et nous considérons que cela vient de quelque part. Il y a des gens au niveau du labo qui décident de ces affrontements, qu'il soit à l'intérieur ou à l'extérieur, et il y a des décisions d'empêchement. Et nous considérons que avec les efforts internes au niveau diplomatique, au niveau politique et au niveau militaire, en un certain moment, d'abord, il se fait que cette rébellion ne va pas et n'obtient pas l'adhésion de la population, qui ne s'adonne pas au recrutement. C'est pour ça que la plupart des recrutements se font beaucoup plus à l'extérieur du pays. Et dès que ces gens-là arrivent, souvent, on leur cache aussi la vérité. C'est pour ça qu'il y a aussi beaucoup de rangs de cette rébellion.
Merci.
Et à l'intérieur, tous les jeunes fuient. Et donc, contrairement aux expériences passées, et en tout cas, notre population n'est plus la même pour qu'elle reçoive tout venant qui propose ceci ou cela. Donc, nous sommes confiants qu'il faut faire confiance à toutes les approches qui sont mises en mouvement, et nous sommes sûrs qu'en un certain moment, le moment venu, le problème sera endigué.
Maître Omar Kavota, nous prenons pour vous cette réaction qui nous vient de Lubumbashi au Katanga.
Leubianga, depuis Lubumbashi, selon mon humble avis, pour mettre fin à tous ces désordres de l'est du pays et prévenir ceux du centre du pays, il faut d'abord un dialogue des filles et des fils du pays pour se dire la vérité et se partager la responsabilité de l'insécurité.
Voilà, réaction Maître Kavota. Le professeur Bouyendo a parlé tout à l'heure du manque de maîtrise des forces de l'intérieur et de l'extérieur.
Oui, nous pensons qu'aujourd'hui, ce n'est pas ce dialogue dont certains sont en train de parler qu'on puisse résoudre les problèmes de notre province, et plus particulièrement ces problèmes du M23. Mais nous avons toujours considéré que plutôt la lutte qui est en train d'être menée à ce jour a été laissée à la société civile ou aux Nations Unies. Et les efforts des dirigeants congolais, en tout cas, ne sont pas très visibles. Et on dirait que les autorités n'agissent qu'ils ne parlent, parce que, vous savez, au début de ces atrocités, de cette guerre d'agression, nous, au niveau de la société civile du Nord Kivu, on était en train de soutenir qu'il y a guerre ici. Et les autorités, vous les écoutiez, elles étaient en train de parler d'une indiscipline de quelques trois éléments de l'armée. Lorsque nous, on a parlé d'agression, elles ont parlé de mutinerie, et il ne fallait entendre que la MONUSCO, Human Rights Watch et les autres partenaires internationaux pour qu'ils mettent à nu tout ce qu'il y a pour que le gouvernement se ressaisisse. Et toutes ces attitudes ambiguës, laxistes, frisent carrément à une certaine complicité. Et nos dirigeants, en tout cas, s'ils sont dignes de ce nom, ne pourraient pas accepter et faire l'espoir que la puissance publique, l'autorité de l'État, que la souveraineté soit réduite jusqu'à ce niveau. Nous pensons que c'est pas en dialoguant, c'est pas en négociant, c'est pas en se soumettant aux résolutions de la CIRG, du Conseil de sécurité, que nous puissions trouver solution à ces problèmes. Nous pouvons les résoudre militairement si nous avons des autorités qui réfléchissent dans la philosophie de la population. Et vous savez, le M23 aujourd'hui, c'est d'enjeu public. Il n'est pas si fort qu'on les pense. Mais il y a des infiltrations, il y a des complicités au niveau de l'armée, au niveau du gouvernement, à tous les niveaux des dirigeants, que ça fait que ce phénomène soit réellement un phénomène qui puisse trop durer. Donc nous pensons qu'il y a lieu de trouver solution à ces problèmes, notamment en n'envisageant pas des négociations avec le M23, en écartant de l'armée ou du gouvernement tous les traîtres, les infiltrés, et dénoncé par la population, en considérant que la solution à ces problèmes ne doit venir que des Congolais eux-mêmes, de la détermination des dirigeants. Et c'est là, si on peut réaliser que les forces et services de sécurité sont infiltrés et incapables, on peut appeler la population à se prendre en charge, parce qu'il n'y a que ces mots d'ordre qui manquent pour que la population trouve solution à ces problèmes.
Maître Kavota, la solution, dites-vous, ne peut venir que des Congolais. Mais d'un autre point de vue, Emina Basembe, qui nous écrit de Mbandaka, a tout à l'heure parlé, lui, de l'échec de la communauté internationale, d'autre part.
Non, mais qu'est-ce qu'il faut attendre de la communauté internationale si ce n'est pas elle qui a dénoncé pour nous l'agression rwandaise? Vous savez, les autorités n'étaient pas les premières à dénoncer cette agression. La société civile, la communauté internationale l'a faite. Elle ne se battra pas à notre place.
Pourquoi on a peur d'engager une guerre contre les Rwandais? Pourquoi on a peur d'appeler la population? Quand on a fait ce recrutement de jeunes FDC, si on disait que ces jeunes sont formés pour aller combattre les Rwandais, vous pensez qu'on n'aurait pas 10 fois le nombre qu'on a réalisé? Les gens sont prêts, mais la mobilisation de l'autorité est réellement basse, que la population ne sait pas si l'autorité roule pour elle ou pour une autre personne. Voilà.
Maître Kavota, il y a l'ambassadeur allemand à l'ONU, Peter Wittig, qui a déclaré, je cite, « Je détecte une volonté de renforcer le dialogue politique et de ne pas se focaliser sur des sanctions à l'heure actuelle. Au moment où la RDC réclame des sanctions contre le Rwanda, vous entendez une pareille réaction. N'y a-t-il pas une certaine ambiguïté dans certaines positions de certains membres de cette communauté internationale?
Tout à fait. Nous disons qu'effectivement, il ne faudrait pas croire que la solution doit venir de la CIRG ou de cette fameuse communauté internationale. Parce qu'en réalité, il y a ceux qui profitent de ce que le M23 fait aujourd'hui pour piller les ressources de la RDC. C'est pourquoi nous disons que nous pouvons nous passer de l'extérieur pour démontrer ce à quoi nous sommes capables. Et si c'est nous aujourd'hui qui pouvons engager une guerre contre les Rwandais, vous pensez que cette fameuse communauté internationale ne viendrait pas aussi vers la RDC pour négocier et pour demander que nous puissions cesser? Et pourquoi nous devons toujours attendre des solutions à l'ONU, des solutions à la CIRG? Nous pouvons démontrer par nous-mêmes que nous pouvons trouver des solutions, parce qu'effectivement, cette communauté internationale ne fait que jouer les jeux d'intérêt.
Voilà, merci Maître Marc Avota. Je rappelle que vous êtes vice-président et porte-parole de la Société Civile du Nord Kivu. Professeur Bouendoua, parmi les solutions, Maître Kavota parle de réformer l'armée, d'écarter les traîtres, une solution congolo-congolaise. Professeur, quelle est votre réaction?
Je sais, du latin, je me souviens bien qu'on parlait du vieux Caton, qui disait « Delenda est Cartago ». Je n'aurais pas l'outrecuidance de préconiser « Delenda est Rwanda ». Mais je pense qu'on ne peut pas se mettre dans des formules belliqueuses. Nous qui habitons les frontières, nous savons bien que ça nous amènerait à des... Mais je pense que les populations ici en ont marre de ces incursions répétitives, de ces violations des droits humains, de tout un tas de choses qui, au fait, escadassent les personnes ici. Je pense que les solutions, ce n'est pas forcément de se mettre tout le temps autour des tables. Nous savons que quand notre pays est agressé, nous n'avons rien d'autre à faire que de repousser l'agresseur jusque là d'où il vient. Et traverser les frontières, et puis on ne peut pas supporter de manière sempiternelle des voisins qui nous agressent. Je pense que la vraie solution, c'est d'avoir une âme d'un peuple, même si nous sommes beaucoup de peuples, d'une nation, même si nous sommes composés de beaucoup de nations, vraiment se mettre à dire que nous avons un espace au cœur de l'Afrique, que nous pouvons rayonner, que nous devons rayonner, et ne pouvons pas nous soumettre à des États qui ont des envies prédatrices et qui vraiment se comportent en charognard. Alors, des États, j'aimerais bien quand même qu'on puisse arriver un peu à poser l'analyse et à se dire que notre pays a suffisamment souffert depuis presque 20 ans maintenant, et qu'on peut arriver réellement à se dire que si l'ennemi nous attaque, quel qu'il soit, nous sommes en mesure de le repousser, de le monter dehors, et de savoir que nous pouvons nous organiser nos administrations suivant le principe de la décentralisation, de la déconcentration et surtout de la décentration. Parce que le vrai problème qui se pose ici, quand on est à 2000 km de Kinshasa, c'est savoir que pour n'importe quelle décision, il faut qu'on attende que Kinshasa dise quelque chose. Son Excellence, Monsieur le Vice-Gouverneur, ne me contredira pas. Je pense que dans beaucoup de ces impossibilités, c'est cette incapacité à ne pas vraiment avoir les coudées franches d'affronter une réalité qui est vraiment côte à côte et de défendre la patrie comme cela se doit.
Donc, professeur, vous pensez que accélérer le processus de décentralisation, sa mise en œuvre, pourrait être une solution à ce problème?
Je pense vraiment la décentralisation et surtout, comme disait le professeur Guy Brébant, la décentration, c'est-à-dire permettre à tout instant qu'on puisse faire ce qu'on appelle la glocalisation, que les problèmes réellement locaux se résolvent localement avant de penser autrement. Moi, je suis natif d'un petit village, un grand village qui s'appelle Louvung, à 5 km du Burundi. Et dans ce petit village, quand vous imaginez qu'il y a un brassage tel que les gens s'imaginent qu'ils peuvent résoudre leurs questions, mais il faut attendre les solutions qui viennent aider Ouvira et aider Bukavu, on n'arrive pas à vraiment avoir des gens qui eux-mêmes peuvent vraiment se battre, combattre, et quand ils le font, quand ils boutent l'ennemi dehors, il y a, au fait, des décisions contraires qui arrivent, qui découragent les gens ici. Si bien que les gens se disent, à quoi bon, ça servirait encore de se battre, mettre l'ennemi dehors, parce que demain, on viendra nous dire qu'il ne faut pas aller plus loin.
Alors, vous dites également, professeur, qu'il faudrait avoir une âme d'un peuple. Par quoi passerait cette action? Est-ce qu'il faudrait un peu plus de prise de conscience de la part du Congolais?
La prise de conscience passerait par ce qu'on appelle dans d'autres pays des think tanks. C'est-à-dire des endroits où des gens peuvent réfléchir sur les questions géopolitiques. Moi, j'ai fait ma thèse, je vous rappelle, sur la Tanzanie et que j'y vais très souvent. Je trouve des Tanzaniens, mais spécialistes du Congo à travers leur langue, mais vraiment partout dans tous les moyens. Au Congo, c'est difficile, même, je dirige un petit centre quand on veut réfléchir sur nos frontières, les conséquences de nos frontières. Hier, j'étais à Kamanyola. Tous les matins, passe plus de 10 000 personnes qui vont cultiver au Congo. On ne sait pas combien rentrent, mais je suis bien content qu'ils viennent produire au Congo. Mais réfléchir sur la question, rechercher une étude sur ça, on n'arrive pas à le faire parce que quand on veut toucher la question, il y a beaucoup d'éléments qui interfèrent, qui interviennent, et on se retrouve assez souvent coincé parce que tout simplement, notre pays refuse que les gens puissent prendre leurs problèmes localement, les résoudre localement, sans agression. Donc en fait, ici, tous les peuples s'interpénètrent et les innovations, la configuration de notre pays nous amène à nous interpénétrer. Nous recevrons beaucoup de nos voisins, mais nous leur en donnons beaucoup. Merci. Et je peux vous assurer que quand on voyage à Nairobi, à Dar es Salaam, à Kampala et partout, beaucoup de nos compatriotes, ils sont bien, ils apportent beaucoup et on nous amène. Mais sauf que nous, à l'est du Congo, on est devenu un marché de l'Afrique de l'Est et rien d'autre. On est colonisé économiquement, merci, politiquement, ça a été là, nous va que du soir.
Merci, professeur Bouyendoua. Maître Feller Loutaïchiroua, je rappelle que vous êtes vice-gouverneur de la province du Nord Kivu. Il faut déjà conclure en moins de 3 minutes. Nous allons terminer l'émission. Le professeur Bouyendoua propose la décentralisation, sa mise en application comme solution. Et pour vous, quelle serait la solution immédiate, puisqu'il y a des populations qui souffrent, qui sont martyrisées par cette administration parallèle du M23, brièvement?
Bon, nous pensons que on doit poursuivre l'élan de la conscientisation de la population. Il n'y a nulle part où on a balkanisé sans obtenir l'adhésion des populations concernées. Et donc, nous pensons que le travail qui se fait avec le gouvernement, avec l'Assemblée, au niveau de l'interinstitutionnel, au niveau des confessions religieuses, qu'elles soient catholiques, qu'elles soient protestantes, merci, qu'elles soient musulmanes, et que la société civile, c'est le travail que fait la société civile, tout cela, c'est comme un travail de balisage. Il faut retenir aussi que la communauté internationale elle est très importante parce que nous ne fabriquons ni armes,
merci,
nous n'avons ni satellites pour gérer ceci ou cela.
Merci, monsieur le vice-gouverneur. Maître Kavota, un mot pour conclure.
Les dirigeants actuels doivent savoir que si la balkanisation est consacrée pendant leur règne, l'histoire et la nation tout entière ne leur pardonneront pas cela.
Merci. Professeur Bouyendoua, un mot également en guise de conclusion.
Je n'irai pas préconiser forcément seulement le Bénin et le Rwanda. Je dirais tout simplement qu'il faudrait fonder nos entités sur nos identités. Et comme ça, nous pouvons bien affronter le monde et lui servir. Merci. Et qu'il nous serve autant parce que nous avons autant à lui donner qu'à recevoir de lui.
Merci monsieur d'avoir participé à cette émission. Merci de votre attention. Merci à toute l'équipe rédactionnelle. Guimate Kelly Nkouté sous la supervision de Pélé Kipela. Merci à Patrick Yassongwa et Sylvain Matundo à la technique. Présentation et coordination, Alain Roumouchinge. Au revoir.